Bien, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette intervention. Alors, il se trouve que ce qu'a pu nous dire Pierre juste avant tombe assez bien, puisque personnellement, là, je vais vous parler de la question du commun et de la propriété chez Proudhon. Et il se trouve que, précisément, Dardot et Laval reprennent en grande partie Proudhon dans leur ouvrage. Alors, concernant la question de la propriété, mais aussi, et là, tu en as peut-être un petit peu moins parlé, Pierre, concernant la question du fédéralisme, qui est là quand même une question institutionnelle importante, me semble-t-il. Alors, il me semblait, mais je m'étalerai pas trop là-dessus, qu'en effet, on peut faire un rapprochement, notamment, entre les thèses d'Elinor Ostrom sur... la gouvernance des biens communs liée à l'autogouvernement et les thèses de Proudhon qui, à mon avis, là aussi, sont assez, assez largement précurseurs de ce qu'a pu dire Elinor Ostrom. Là, ce qui me paraît intéressant par rapport à ce que tu as pu dire, notamment Pierre, et je suis assez d'accord avec toi, et j'irai dans ce sens, c'est qu'à mon avis, chez Proudhon, rétrospectivement, on retrouve une sorte d'élargissement des théories d'Elinor Ostrom par rapport à la gestion des biens communs en termes de règles, notamment, qui sont très importantes. C'est comment gérer des biens communs grâce à des règles, grâce à une entente collective, grâce à des délibérations, etc. Ce qui me semble intéressant, c'est que chez Proudhon, il y a un élargissement par rapport à la question des biens. Autrement dit, chez Proudhon, ce qui l'intéresse, ce n'est pas uniquement les biens naturels, les biens communs, comme chez Elinor Ostrom, mais ce sont bien, j'allais dire, les biens de production aussi, ce que produit l'homme. Mais il peut y avoir un lien aussi, à mon avis, tout à fait légitime, dans la mesure où précisément ce que produit l'homme, en tout cas pour Proudhon, provient aussi de ces biens communs naturels. Il n'arrive pas de nulle part. Donc il y a une source, quand même, qui sont les biens naturels, qui vont pouvoir ensuite être transformés par l'homme en biens de production. Mais là encore, sur ces biens de production, il va falloir s'entendre collectivement pour pouvoir les gouverner ensemble. Après, juste encore une petite aparté par rapport à la question de l'inappropriable. Je ne suis pas sûr que chez Proudhon, il y ait cette conception, j'allais dire presque en pied de nez absolue, de l'inappropriabilité. Et ce serait peut-être aussi une erreur symétrique de considérer, je pense, l'inappropriable de façon aussi absolue qu'on peut concevoir l'appropriable. Autrement dit, il y a, je pense, la question de l'appropriable, mais en commun. Donc, comment, par une forme d'autogouvernement et par des formes de communauté, comment s'approprier et gérer des biens que l'on possède ensemble, et comment décider des règles communes à tous en fonction de règles de justice, puisque la justice est une dimension fondamentale chez Proudhon. Donc, dans la perspective de Proudhon, donc, il y a la question de la justice liée aux biens communs, aux biens de production, et il y a une question éminemment politique aussi. Et là, il rejoint évidemment, Dardot et Laval plutôt rejoignent Proudhon à ce niveau-là, dans la mesure où, évidemment, la question de la gouvernance des communs, de l'autogouvernement des communs, de la propriété, est une question éminemment politique. Donc les communs sont liés à des communautés, et donc à un sens collectif où les individus communiquent et négocient dans une perspective qui ne se réduit pas à des intérêts immédiats. Là, on n'est pas dans l'économie néoclassique, comme tu me le rappelais, Pierre. Les communs font l'objet d'une gouvernance, aussi bien chez Proudhon que chez Ostrom, qui n'est imposée ni par le marché, ni par l'État. Et le souci des biens communs est toujours de concilier le droit d'usage avec la préservation des ressources. Or, cette conciliation, comme le montre la gestion de biens communs complexes, comme les canaux d'irrigation, est rendue possible notamment grâce aux valeurs partagées par les membres de la communauté. Ces valeurs permettent de surmonter les difficultés de gestion, de véhiculer les connaissances collectives et de prendre conscience de l'importance de l'adaptabilité et de la flexibilité de l'institution. Donc la gouvernance de biens communs est par conséquent un construit social et politique qui dépend de l'arbitrage de la collectivité entre ce qu'elle peut ou veut supporter pour le bénéfice de tous et la production de biens libres d'accès. À problème commun, donc, nécessité d'une organisation commune. Il est nécessaire de concevoir la terre et, de manière générale, les biens communs, non comme une simple matière dont nous pourrions user sans limite, mais de façon raisonnable, parce qu'elle nous est léguée, parce que nous devons la transmettre et parce que la société lui doit pouvoir subsister. Aussi Proudhon avance-t-il que nous avons reçu la terre en fermage et usufruit. Elle nous a été donnée, dit-il, pour être possédée, exploitée par nous solidairement et individuellement, sous notre responsabilité collective et personnelle. Nous devons la cultiver, la posséder, en jouir, non pas arbitrairement, mais selon des règles et fins qui excluent tout absolutisme de notre part et reportent le domaine terrien plus haut que nous. Or, ces règles et ces fins donnent à la possession terrienne une dimension essentiellement égalitaire. En Russie, écrit-il, la commune, seule sans ses propriétaires, doit fournir à chaque ménage une quantité de terres labourables. Et si le nombre de familles augmente, on refait le partage de manière à ce que personne ne soit exclu. L'économie politique, ajoute-t-il, qui considère les lois de la production, abstraction faite des intérêts individuels et de l'inégalité des fortunes, ne peut pas elle-même exiger mieux que cette simple tenure. Par conséquent, la terre et les biens communs en général, s'ils peuvent être possédés, ne peuvent être appropriés. Ce qui importe avant tout est la possibilité d'occuper une place afin de subvenir aux besoins de tous et de chacun. Ce que Proudhon explicite en rapportant notamment les propos de Cicéron. Le théâtre, dit Cicéron, est commun à tous. Et cependant, la place que chacun y occupe est dite sienne. C'est-à-dire, évidemment, qu'elle est une place possédée et non une place appropriée. Cette comparaison, argumente Proudhon, anéantit la propriété. De plus, elle implique égalité. Puis-je, dans un théâtre, occuper simultanément une place au parterre, une autre dans les loges, une troisième vers les combles? Non, à moins d'avoir trois corps, comme Gérion, ou d'exister au même moment en différents lieux, comme le raconte le magicien Apollonius. Nul n'a droit qu'à ce qui lui suffit, d'après Cicéron. Telle est l'interprétation fidèle de son fameux axiome « à chacun ce qui lui appartient », axiome que l'on a si étrangement appliqué. Ce qui appartient à chacun n'est pas ce que chacun peut posséder, mais ce que chacun a droit de posséder. Or, qu'avons-nous le droit de posséder? Ce qui suffit à notre travail et à notre consommation. La comparaison que Cicéron fait de la terre à un théâtre le prouve. Après cela, que chacun s'arrange dans sa place à son gré, qu'il l'embellisse et l'améliore s'il peut, il lui est permis, mais que son activité ne dépasse jamais la limite qui le sépare d'autrui. La doctrine de Cicéron conclut droit à l'égalité, car l'occupation étant une pure tolérance, si la tolérance est mutuelle, et elle ne peut pas ne pas l'être, les possessions sont égales. Voilà, fin de cette longue citation de Proudhon. Et donc nous pouvons illustrer plus concrètement cet argumentaire, si l'on suit notamment les développements d'Ostrom concernant l'organisation de la gestion égalitaire des biens communs. la stratégie individuelle et collective propre à l'autogouvernement consiste pour les intéressés à aller et venir entre les différents niveaux en fonction de leur expérience, tout en sachant que les règles opérationnelles sont plus faciles à changer que les règles de choix constitutionnelles, ne serait-ce que pour préserver un minimum de stabilité. Donc l'élaboration de ces règles a lieu dans des arènes qui peuvent avoir ou non un cadre formel. Si les appropriateurs d'une ressource changent au moins quelques-unes des règles opérationnelles organisant l'appropriation et la fourniture, les arènes dans lesquelles les décisions de choix collectifs seront prises peuvent être un bistrot local, les réunions d'une association de producteurs ou les assemblées d'une organisation mise sur pied dans le but spécifique de gérer et gouverner cette ressource commune et éventuellement d'autres ressources communes qui y sont liées. Dans la majorité des cas, plusieurs arènes de choix collectifs influent sur l'ensemble de règles opérationnelles utilisées par les appropriateurs dans l'exercice des choix en matière de stratégie de récolte et d'investissement relative à une ressource commune. Donc là, on a véritablement l'idée chez Eileen Rostrom qu'il y a la possibilité de constitution de règles pour gérer ces biens communs. Donc chez Proudhon aussi, on retrouve cette nécessité de l'élaboration collective de normes liées aux choses. Ce n'est pas l'élaboration des normes ne sont pas uniquement liées aux politiques comme on peut l'entendre, qui sont des relations de pouvoir par rapport à la cité, mais bien aussi à l'économique et au bien. Proudhon dit notamment, pour que le suffrage soit direct, il ne suffit pas qu'il soit décerné directement de l'électeur à l'élu. Il faut qu'il représente non moins directement des opinions, des droits, des intérêts et des affaires. Car un État, une société, ne se compose pas uniquement de volonté, il se compose aussi de choses. Donc de la gestion de biens communs développée par Ostrom et dont Proudhon aborde la question en ce qui concerne la terre, il y a un pont, je pense, donc vers les moyens et les biens de production dont nous parle plus spécifiquement Proudhon et dont ne parle pas Eleanor Ostrom et qui, à mon avis, est aussi un petit peu dans l'idée de Dardot et Laval. Simplement, en l'occurrence, chez Proudhon, on peut trouver une sorte de corrélation, peut-être de gestion des biens communs aux biens de production en termes d'élaboration des règles collectives qu'abordent malheureusement trop peu Dardot et Laval. Donc pour Proudhon, le rapport de l'homme à la propriété ne peut se justifier tout d'abord que par sa finalité. Pour lui, ce n'est ni dans son principe et ses origines, ni dans sa matière qu'il faut chercher la raison de la propriété. À tous ces égards, la propriété ne peut rien nous offrir de plus que la possession. La propriété, donc, se justifie dans ses fins. Elle est avant tout une fonction. Et c'est parce qu'elle est une fonction à laquelle tout citoyen est appelé, comme il est appelé à posséder et à produire, qu'elle devient un droit. Le droit résultant ici de la destinée, non la destinée du droit. Donc là encore, chez Proudhon, la question du droit de propriété est fondamentale. Et c'est parce qu'il pense le droit de propriété qu'il va aussi pouvoir penser l'élaboration de normes collectives à partir précisément de cette conception de la propriété, de ce droit de propriété. Donc la propriété, pour Proudhon en soi, n'est pas juste. C'est en fonction des fins et de sa fonction qu'elle peut l'être. Il se pose donc la question, comment puis-je rendre la propriété, ou dans le terme plus proudhonien de possession, comment puis-je rendre la possession juste? Tout d'abord, en reconnaissant à tous le même droit à l'appropriation, et il va même dire à l'usurpation. Deuxièmement, en réglementant l'usurpation comme le corsaire partageant le butin entre ses compagnons, de sorte qu'elle tente spontanément à se niveler. C'est donc grâce à l'universalisation de la propriété, et non par sa confiscation par l'État ou par quelques-uns, que les fortunes sont les plus égales et que chacun travaille. Autrement dit, de l'organisation des rapports qui suppose une justice commutative, c'est-à-dire égalitaire et horizontale, basée sur la réciprocité, résulte une propriété qui doit se faire opposition et concurrence, tendre à se limiter, sinon à se détruire, par conséquent à se faire équilibre. L'action de la propriété sur elle-même, en dehors du pouvoir et des lois, tel sera donc notre premier moyen. Ensuite, la propriété n'étant pas isolée dans le système social, il faut bien qu'elle compose avec les autres forces. Par conséquent, l'influence des institutions vis-à-vis de la propriété sera, ainsi que l'écrit Proudhon, notre second moyen de gouvernement. Proudhon entend ainsi montrer la possibilité d'une troisième voie, basée sur la possession de biens et de moyens de production, gérer et gouverner collectivement et démocratiquement. Se pose alors la question suivante, posée par Dardot et Laval dans leur ouvrage. Je les cite, « Une chose ayant été soustraite à la sphère de la propriété privée ou étatique, comment en user collectivement, de telle sorte que tous puissent en bénéficier ?» Et ils répondent en substance, c'est du côté de la productivité juridique et normative de l'usage, et non du côté du sujet titulaire de l'appartenance, que cette dissociation oriente l'interrogation. Et là, c'est une question, à mon avis, très importante et intéressante que posent Dardot et Laval, auxquelles ils n'ont sûrement pas assez bien répondu, mais à laquelle, à mon avis, Proudhon peut lancer quelques pistes. La production elle-même, selon Proudhon, constitue la résultante d'une sorte de fait social total qui ne peut se réduire à l'auteur direct de la production. Autrement dit, toute production induit l'endettement social du producteur, ce qui implique la nature foncièrement collective de la propriété, qui par conséquent ne peut jamais faire exclusivement l'objet d'une appropriation. Ainsi, je cite Proudhon, « La participation générale à chaque espèce de produit a pour résultat de rendre communes toutes les productions particulières. De telle sorte que chaque produit sortant des mains du producteur se trouve d'avance frappé d'hypothèques par la société. Le producteur n'a droit lui-même à son produit que pour une fraction dont le dénominateur est égal au nombre des individus dont la société se compose. Autrement dit, tout travail humain résultant nécessairement d'une force collective, concept là encore fondamental chez Proudhon, toute propriété devient par la même raison collective et indivise. En termes plus précis, le travail détruit la propriété, au sens absolu et capitaliste du terme. Ce qui importe avant tout, c'est la possibilité d'occuper une place afin de subvenir aux besoins de tous et de chacun. Alors, suite à cette brève esquisse de la problématique économique, qu'en est-il de celle de l'État, supposé garant l'intérêt général et des services publics ? Alors encore une fois, on peut reprendre les propos tenus par Dardot et Laval dans leur ouvrage, et qui, à mon avis, rejoignent là encore en grande partie les propos de Proudhon. pour répondre réellement à des besoins collectifs, il convient que les services publics soient exprimés, débattus, élaborés selon des votes démocratiques. À défaut de cet engagement civique, l'usager est soit un sujet, soit un client, parfois les deux à la fois. Dans les deux cas, il y a usurpation ou dilution de l'intérêt général et perte de dimension de la citoyenneté. Mais à quelles conditions peut-on passer du service public au service commun? Ceci implique une modification considérable de la conception que l'on se fait de l'État. Et là aussi, alors là encore, ils n'approfondissent pas cette autre conception de l'État que l'on pourrait avoir. Mais là encore, je pense que Proudhon peut nous donner des pistes, même en tant que théoricien anarchiste. Hein, il a longtemps, enfin, il a même toujours, enfin, souvent considéré la possibilité d'une forme État vidée de sa substance théologico-politique, mais qui puisse faire office d'une forme d'organisme administratif garant, si ce n'est arbitre, de certains conflits d'intérêts. Pour Proudhon, après la Révolution, l'État a perdu son omnipotence et sa souveraineté absolue. Il est devenu une personne civile semblable à l'un des citoyens, auparavant ses sujets. Ce qui veut dire, notamment pour Proudhon, qu'au point de vue de l'impôt, dont il a une théorie, l'État devient le producteur d'une unité spéciale et conséquemment un échangiste qui échange d'égal à égal avec les citoyens. C'est aux citoyens de s'entendre entre eux dans leur prudence et sagesse et selon les formes les plus amiables sur l'espèce de service qu'ils veulent demander à l'État. Donc, ce qui importe avant tout chez Proudhon, c'est l'égalisation des richesses et de la propriété, afin que les citoyens soient progressivement égaux devant l'impôt. À partir de là, Proudhon va construire une théorie, une forme de théorie du fédéralisme, avec des formes de décentralisation institutionnelle, à la fois politique et économique, ce qu'il appellera le fédéralisme agricole-industriel, basé à la fois sur l'autonomie des communes qui vont former après des pyramides un petit peu suivant le principe de subsidiarité avec des échelons supérieurs, la région, la nation, etc. Mais aussi des organismes autonomes économiques qui vont pouvoir répondre aux besoins d'une part des habitants en termes économiques et pouvoir aussi relayer démocratiquement les voix des travailleurs. Donc l'autogouvernement des travailleurs va de pair avec la socialisation des moyens de production et ne sont soumises ni au capital ni à l'État. Donc selon Proudhon, l'association ouvrière restera une utopie tant que le gouvernement n'aura pas compris que les services publics ne doivent être ni exécutés par lui-même, ni convertis en entreprises privées et anonymes, mais confiés à terme à des compagnies d'ouvriers solidaires et responsables. Le monopole devient alors impossible grâce à l'équilibre des forces économiques qui se réalise grâce à la fédération des producteurs autonomes et responsables. Alors, dans la continuité des propos de Proudhon, il y a le juriste Alain Supiot, qui me semble va assez dans son sens, en affirmant que ce sont tous ceux qui bénéficient d'une opération économique qui doivent être considérés comme opérateurs, quels que soient les montages juridiques empruntés par l'entreprise. Nous serions ainsi en présence de l'idée selon laquelle on ne peut jamais être propriétaire au sens absolu, mais seulement tenancier de la chose. Les rapports des hommes aux choses étant toujours l'ombre portée des rapports entre les hommes. Ainsi, le rapport politique des hommes entre eux étant corrélatif au rapport économique des hommes aux choses, il s'ensuit que les modalités de production et de répartition des biens sont fonction d'un dénominateur social. Là, je cite Proudhon, pour finir, « Toutes les industries se réunissent par des rapports mutuels en un faisceau unique. Toutes les productions se servent réciproquement de fins et de moyens. Toutes les variétés de talents ne sont qu'une série de métamorphoses de l'inférieur au supérieur. Or, ce fait incontestable et incontesté de la participation générale à chaque espèce de produit a pour résultat de rendre communes toutes les productions particulières. Autrement dit, de par sa finalité, la justice, et de par son mode de gestion autonome et égalitaire qui implique des décisions et des règles soutenues par une morale, la justification de la propriété est essentiellement politique. Je vous remercie.